Brice de Passe, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Vous êtes l'animateur de La Story sur Nostalgie. Alors, il y a 40 ans, quasi tout pile, c'était le 1er avril, Marvin Gaye mourait et on vient de découvrir des dizaines d'enregistrements inédits en Belgique. Alors, pour commencer, quels sont ces enregistrements?
Ah, mais ça, alors là, il faudra que l'avocat de la famille qui en est le propriétaire nous le disent. En fait, c'est plusieurs dizaines de cassettes qu'il a laissées ici quand il a, après son séjour en Belgique. Et dans ces cassettes, il y a des chansons qu'il avait enregistrées, donc en démo, et qui sont demeurées totalement inédites.
Justement, on l'a dit, c'était en Belgique, à Ostende. Il avait une relation particulière avec la Belgique ou il s'est juste rendu sur la côte belge?
Alors, c'est ce qu'on peut appeler une relation accidentelle. C'est-à-dire que Marvin Gaye, à la fin des années 70, il était vraiment dans une très très mauvaise passe. Un divorce malheureux, dont il avait sorti un album, lui, artiste au succès mondial, qui n'avait absolument pas fonctionné. Et une addiction à l'alcool et à la drogue qui a fait que, lorsqu'il s'est retrouvé dans sa tournée en Grande-Bretagne, il a eu quelques problèmes avec un ou des dealers assez violents. Et à l'époque, il y avait toujours la malle au stand d'Ouvre. Donc, il est venu jouer à l'invitation d'une personne ici en Belgique, au casino d'Ostende. Et puis après ce concert, il n'avait plus trop envie de retourner en Angleterre. Donc, il s'est installé ici en Belgique. Il a résidé un certain temps à Ostende. Il est venu sur Bruxelles à participer à plusieurs émissions de télévision, et c'est vraiment ici qu'il s'est refait une santé, je dirais, aussi bien physiquement que moralement, et c'est ici qu'il a enregistré Sexual Healing, qui a été son grand tube de retour, son retour au succès, qui a fait qu'il est ensuite reparti aux États-Unis et n'est plus revenu.
Alors, vous l'avez dit, une grande bataille juridique va commencer, mais serait-il possible, si jamais les avocats l'acceptent, d'avoir plusieurs albums posthumes? On parle de 38 enregistrements avec sa voix, donc ça fait quand même plusieurs albums. On pourrait avoir des albums posthumes de Marvin Gaye?
Alors, je n'en sais rien. Quand Prince est décédé, on a retrouvé dans son studio et on a annoncé à cor et à cri qu'il y avait 600 titres inédits. On a vu jusque maintenant un album et demi depuis. Donc, à voir, quand on dit qu'il y a 38 chansons, est-ce que ces 38 chansons sont exploitables? Quand les artistes travaillent, ils cherchent, donc ils sont là avec leur piano ou leur guitare, ils ont quelques idées de paroles, les trucs sont pas achevés, et c'est vrai que l'avocat de la famille a intelligemment annoncé à la presse, et c'est pas par hasard qu'il l'a fait à la BBC pour avoir un retentissement mondial, qu'il a dit oui, maintenant avec le dernier single des Beatles qui a été fait, parce que ce sont quand même des cassettes, donc ce sont pas des bandes de studio. Dans quelles conditions est-ce que ça a été fait? Avec un magnétophone? Ça a été fait avec un bon micro? On n'en sait rien, on les a pas entendus. Mais pour pouvoir exploiter ça de la manière dont ça a été fait pour les Beatles, il va falloir qu'il fasse appel à Jackson, donc le réalisateur du Seigneur des Anneaux, qui a son système qui permet d'isoler la voix complètement, de la débarrasser de tous les sons qui sont... On n'en sait rien, on ne connaît pas la qualité. Ça coûte extrêmement cher. Et quel est encore le potentiel commercial de Marvin Gaye aujourd'hui? Ça aussi, c'est à voir. Donc, quelle est la firme de disques qui va dire oui, on va oser mettre tout cet argent qui va satisfaire tout le monde, les propriétaires, les ayants droit de la famille de Marvin Gaye, et quel est encore l'argent qu'on peut encore tirer de ça? Ça, c'est vraiment le gros point d'interrogation.
Alors, revenons sur cette bataille juridique. En quittant la Belgique, Marvin Gaye aurait dit à ses hôtes « Je vous laisse tout ça, faites-en ce que vous voulez ». Comment ça se fait que cette famille, ces hôtes, ne puissent pas avoir la propriété totale de ce que Marvin Gaye leur a légué?
Parce que le droit d'auteur est inaliénable. Donc, le droit moral d'auteur est inaliénable. Vous ne pouvez rien faire. Donc, ça protège quelque part les auteurs. Imaginez quelqu'un qui est un génie, qui est dans une situation de détresse financière. Il pourrait signer n'importe quoi. Et évidemment, des producteurs ont maintes fois profité dans l'histoire de ce genre de situation pour s'approprier le droit total sur une œuvre. Et donc aujourd'hui, mondialement, on ne peut plus, même si un auteur dit « oui, je suis d'accord, je signe », il ne peut plus céder son droit moral, il lui appartient toujours. Maintenant, la propriété d'une bande, c'est tout à fait autre chose. Mais celui qui est propriétaire de la bande ne peut pas en faire ce qu'il veut. Alors quel est le problème juridique qui se pose dans le cas de Demoulin? C'est que évidemment, il n'y a pas d'écrit. Donc, c'est leur parole. Sauf que nous avons, en droit belge, hérité du droit romain, ce qu'on appelait l'usucapion en droit romain, qui disait que, en fait, de meubles, possession vaut titre. Oui, mais attention, ce n'est pas un an comme dans le droit romain, c'est 30 ans. Ces 30 ans étant aujourd'hui dépassés, il ne peut pas y avoir de bataille juridique sur la propriété de la bande. Par contre, sur l'exploitation de cette bande, ils vont avoir besoin des ayants droit pour donner leur autorisation. Et ça, ça se menait.
Quelle place occupe Marvin Gaye dans la musique et dans son époque?
Alors, dans son époque, Marvin Gaye était une énorme star de la soul. C'est même la première énorme star mondiale de la soul telle qu'elle a été développée par la Motown. Donc la Motown qui était le label de musique noire, on va dire de divertissement, qui ne vient pas du jazz, comme Ray Charles venait du jazz, donc d'autres chanteurs noirs. La Motown, c'est que de la soul. Et il faut savoir que des gars comme les Beatles, au début des années 60, étaient des fans de Marvin Gaye. Donc Marvin Gaye, il était vraiment juste énorme au niveau de l'histoire de la musique.
Avant, je regardais en préparant cette interview une interview de Arnaud qui expliquait qu'il avait cuisiné pour Marvin Gaye lors de son passage à Ostende. Je ne sais pas si vous avez l'anecdote.
Oui, c'est-à-dire que là, Marvin Gaye était hébergé donc par un patron de boîte qui s'appelait Freddy Couzart, et il a vécu quelques mois dans cet appartement, et il se fait que Arnaud, étant d'Ostende, fréquentait la boîte de Freddy Couzart, et il lui arrivait de faire des petits jobs, parce que Arnaud, à ce moment-là, avait un duo, il avait déjà un groupe, donc avec son copain Cowter, donc c'était Tiens Cowter, et les initiales c'était TC, et c'est devenu plus tard Tiffymatic, le groupe qui a rendu Arnaud célèbre. Et donc il arrivait à Arnaud de rendre quelques menus services payés par Freddy Couzart, c'est donc à quelques reprises, donc Arnaud est allé porter à manger donc à Marvin Gaye, ils ont eu quelques conversations, puisque Arnaud était vraiment passionné de musique soul, il était d'ailleurs allé aux États-Unis, c'est en revenant des États-Unis qu'il était revenu avec cette volonté d'être musicien et chanteur et non plus footballeur, et bon, il dit que Marvin Gaye lui a donné quelques conseils à l'époque, mais c'était juste invraisemblable. Vous imaginez, vous habitez au stand, vous êtes loin de tout au niveau des légendes de la musique, et il y a Marvin Gaye qui est là, c'est juste incroyable, quoi.
Pour finir, Brice Depasse, vous avez sorti le dernier ouvrage, La Story.
Oui, donc ça s'appelle Nos années 80. Donc ça ne parle que de ça, des années 80, mais c'est pas un simple... c'est pas un agenda, c'est pas qu'est-ce qui s'est passé en 1981, 82, 83, c'est pas non plus une revue exhaustive de tout ce qui s'est passé au niveau musique, mais c'est une large réflexion sur ce qu'ont été ces années qui paraissent si importantes dans notre société aujourd'hui marquée par la pop culture que même les jeunes générations. Notre plus jeune fils, Annick et moi, de 19 ans, c'est lui qui m'a donné cette idée à sa grande playlist Spotify qu'il a construite lui-même de chansons des années 80. Et il dit « J'aurais tellement voulu vivre dans les années 80 ». Il a 19 ans, c'est un enfant du 21e siècle. Et on se dit « C'est pas une mode », parce qu'une mode ne dure pas plus de 20 ans. Et ça fait plus de 20 ans qu'on voit que ces années 80 sont devenues, tellement emblématiques. Bien sûr qu'il y a eu des modes années 60, années 70, mais ça a été des modes. C'est un retour, ça dure 2-3 ans, il y a quelques groupes qui... Mais aujourd'hui, je veux dire, les orchestrales manœuvres, pour ne prendre que comme exemple, remplissent des salles, mais plus grandes aucune dans lesquelles ils n'ont jamais joué. On annonce leur tournée, c'est rempli tout de suite. C'est invraisemblable l'impact qu'ont les années 80. Et donc, pourquoi ? Et est-ce que tout ce qu'on raconte sur les années 80 est bien vrai ? Donc, c'est ce que j'explique dans ce livre.
Eh bien, Brice de Passe, merci beaucoup d'avoir été sur Radio Judaïka avec nous. Je rappelle que vous êtes l'animateur de La Story. À bientôt.
Merci beaucoup, Blaise. À très bientôt, évidemment.